Bienvenue sur l'Instant T, le podcast dédié aux mutations du monde du travail. Je suis Guillaume Couder, entrepreneur, influenceur, slasher et surtout passionné de thématiques RH depuis plus de 10 ans. Travail hybride, marque employeur, compétences, quête de sens, l'Instant T décrypte à travers chaque épisode les dernières tendances et enjeux autour du développement des talents. Accompagné d'un thé ou d'un café, prenez une pause et laissez-vous emporter par les retours d'expérience et les témoignages de mes invités en collaboration avec HULTEF Corporate Education, dont l'ambition est d'accompagner et de former les professionnels dans le développement des compétences indispensables au monde de demain. Une occasion de prendre de la hauteur et de vous inspirer. « 2022, le monde change beaucoup, mais je ne vous apprends rien. Le monde du travail n'est pas en reste avec la nécessité croissante pour les entreprises de faire preuve d'agilité et de s'adapter. S'adapter aux candidats, à ses salariés, aux managers, au contexte économique, à l'impératif écologique. Et ça tombe bien, l'entreprise peut pour cela compter sur une de ses principales richesses, son capital humain. Et comme vous le savez, dans l'Instant T, on adore parler de compétences, ces fameuses « soft » et « hard skills ». Pour aller plus loin sur cette distinction entre soft skills et hard skills, on a justement le plaisir d'accueillir, ou du moins c'est lui qui m'accueille aujourd'hui chez lui, le spécialiste français du sujet, Jérémy Lamry, qui est cofondateur du Lab RH, chercheur et entrepreneur dans le milieu de la tech depuis plus d'une dizaine d'années. Bonjour Jérémy, et merci de m'accueillir chez toi pour enregistrer cet épisode. Beaucoup de nos auditeurs, notamment les professionnels RH qui nous écoutent, te connaissent déjà. Pour les autres, pourrais-tu nous parler un petit peu de toi, de ton parcours et globalement des sujets qui occupent tes journées ?
Bonjour Guillaume, merci beaucoup de me recevoir chez moi aujourd'hui. Non, merci beaucoup de m'inviter dans ce podcast. L'Instant T, c'est vraiment cet espace de dialogue qui permet d'aborder des sujets autour de l'évolution des organisations. J'y suis extrêmement sensible. Et globalement, moi, ça fait une dizaine d'années que j'évolue dans le milieu de la tech RH sur le sujet de l'égalité des chances à travers la fonction RH. Je m'intéresse globalement à comment est-ce qu'on peut faire dans la société de manière générale pour permettre au plus grand nombre de faire la différence. Et je pars du principe que le travail, ça doit être un levier d'épanouissement dans la vie cruciale et que les RH jouent un rôle majeur dans le monde du travail. Donc j'essaye de faire en sorte qu'on fasse évoluer la manière de recruter, la manière de développer les compétences, la manière d'engager les collaborateurs. Donc je me suis concentré sur ces sujets-là avec des entreprises que j'ai créées dans le monde du recrutement, comme Monkitaille, dans l'univers RH comme le Lab RH, mais aussi autour des sujets d'éthique et d'éthique de l'intelligence artificielle, comme le Hub Francia. Ces activités, je les ai menées en parallèle d'activités de recherche aussi. J'ai un doctorat en psychologie, notamment sur le sujet du lien entre les compétences et la performance professionnelle.
Bah merci Jérémy pour cette première réponse très claire. En tout cas, je suis très content de voir qu'on remet les RH au centre. On a évidemment à cœur à l'Instant T d'accueillir des publics RH. On a beaucoup d'auditeurs évidemment qui travaillent dans ce domaine. D'ailleurs, ces publics RH entendent beaucoup parler de soft skills et de hard skills. Tu n'es pas sans le savoir, Jérémy, et c'est d'ailleurs ton sujet de prédilection. Ce sont des notions qu'on utilise beaucoup au quotidien. Et justement, j'aimerais qu'on creuse un petit peu autour de ces deux concepts. Comment est-ce que tu les définirais et quelles sont leurs différences entre ces soft skills et ses hard skills?
Merci Guillaume, le sujet à 1 million d'euros de nos jours, soft skills et hard skills. Donc déjà le point commun entre ces deux concepts, c'est la notion de compétence. Les deux sont des compétences, on va parler des hard skills comme des compétences techniques, les compétences qui ont une dimension liée au savoir et au savoir-faire très importante. Alors que les soft skills, là, c'est un peu moins bien défini et chacun a sa définition puisqu'il n'y a pas de normes aujourd'hui. Mais les soft skills, globalement, ce sont les compétences qui permettent de réfléchir et d'interagir dans un contexte donné. C'est ce qui permet de s'adapter soit face à des gens, soit face à des situations. Des soft skills typiques, ça va être la créativité, l'esprit critique, la communication, la collaboration. Alors que des hard skills critiques, ça va être par exemple le marketing, l'anglais, la conduite d'engin. Donc on voit bien dans un cas qu'on a besoin de connaissances très très spécifiques, alors que dans l'autre, ça a l'air assez flou. Et je pense que c'est là toute la difficulté du marché sur les soft skills, c'est qu'on voit bien qu'elles ne fonctionnent pas pareil, on voit bien qu'il ne s'agit pas de rester assis dans une salle de classe pour les apprendre, et donc on a du mal à les développer, on a du mal à les identifier, on a du mal à mettre des mots dessus. Ça, c'est un peu l'état du marché aujourd'hui. Et c'est ce qui est passionnant, c'est qu'on, je pense qu'on est en train de vivre un grand tournant dans le marché avec une précision de plus en plus fine sur le sujet des soft skills.
Alors justement, on commence à toucher du doigt notre sujet principal. On va y revenir juste après, le sujet justement d'acquérir ces soft skills et ces hard skills. Maintenant, on est beaucoup plus au clair, on va dire, sur la distinction entre les deux. J'entends aussi beaucoup en ce moment de recruteurs qui embauchent des candidats tels qu'ils sont, des recrutements sans CV, en fonction de la seule personnalité du candidat. C'est finalement un peu le « venez comme vous êtes » de McDo appliqué au recrutement. Et beaucoup de candidats que je rencontre trouvent l'approche assez séduisante. Pour autant, est-ce que tu penses, toi, en tant qu'expert RH et spécialiste notamment des soft skills et des hard skills, que l'on puisse aujourd'hui recruter sur le simple critère de la personnalité ou des soft skills ?
Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que la personnalité, c'est un sujet dont on parle beaucoup dans les entreprises. La personnalité, ça a été très à la mode dans les années 70-80, puis c'est revenu ensuite. Et en 2012, en fait, quand j'ai monté ma première boîte autour des sujets du recrutement dans la tech RH, c'était Monkey Tie. Et Monkey Tie, l'objectif, c'était de permettre aux recruteurs de s'affranchir du CV en recrutant notamment par la personnalité et les moteurs de motivation. Et donc, notre premier slogan, c'était « Les compétences ont une personnalité ». Et à l'époque, donc, j'avais pas fait toutes les recherches que j'ai fait depuis, et je pensais que la personnalité était le facteur important quand on voulait s'affranchir des hard skills, on allait, ou du diplôme, on allait regarder la personnalité. Et depuis, j'ai compris des trucs assez intéressants sur le sujet. C'est qu'en fait, une compétence, quelle qu'elle soit, elle est composée de trois grandes dimensions. Une dimension qu'on appelle la dimension cognitive, une dimension qu'on appelle la dimension conative et une dimension qu'on appelle la dimension affective. La dimension affective, c'est toute la partie émotionnelle, c'est les émotions à soi, les émotions des autres, et donc c'est notre capacité à ressentir, mais aussi à gérer ses propres émotions et celles des autres. Ça, dans certaines compétences, on en a besoin. Dans les compétences liées au service à la personne, on a besoin d'une dimension affective. Dans les compétences liées à la communication, à la collaboration. Donc ça, c'est un premier volet. Donc si on ne veut pas aller chercher des compétences ou des diplômes, on pourrait essayer de mesurer, par exemple, la dimension affective. Après, on a la dimension cognitive, c'est notre capacité à réfléchir et à raisonner, à quel point on est capable de faire des raisonnements logiques qui relèvent du bon sens et à quel point on est capable de faire des liens et à quel point on est capable de faire tout ça rapidement. Suivant les compétences, on a besoin de réfléchir plus ou moins. Et la dernière, donc, la dimension conative. On ne parle pas souvent du mot conatif dans le monde courant, même dans les RH. Et pourtant, c'est tout ce qui va caractériser la personnalité, les moteurs de motivation ou les préférences. La personnalité, c'est nos tendances de comportement. On a plutôt tendance à être introverti, plutôt tendance à être extraverti, etc. Nos moteurs de motivation, ça va être, est-ce que ce qui me donne de l'énergie, c'est plutôt le fait de gagner de l'argent, d'avoir un bon manager, d'avoir une bonne ambiance d'équipe. On est tous motivés par des choses différentes. Et le dernier, ça va être les intérêts. Les intérêts, c'est en fait, qu'est-ce que j'aime faire ? Est-ce que j'aime plutôt travailler dehors ou en intérieur ? Et toutes ces choses-là, en fait, ça va être donc la partie conative qui va en gros être un peu notre style, notre préférence, notre identité un peu. Et en fait, essayer de recruter uniquement par cet angle de la personnalité, ce serait finalement prendre qu'une toute petite partie du sujet, qui n'est même pas la compétence, pour essayer de prédire de la performance. Pourquoi ? Parce que quand on recrute, idéalement, c'est en se disant « cette personne, elle va bien correspondre dans la boîte et elle va faire le boulot pour le boulot qu'on a besoin. » Donc on cherche un peu un petit côté prédictif, même sans le mesurer. On ne recrute pas en se disant wow, « j'espère me tromper ». Donc si on ne veut pas se tromper, en fait, il faut prendre un petit peu plus de critères que ça. Il faut ce côté conatif, mais comme on l'a vu, c'est pas que la personnalité, c'est aussi les moteurs de motivation. Est-ce que ce que l'entreprise propose pour motiver, ça correspond ? Ça va être aussi la capacité à bien réfléchir, et globalement aussi la capacité à gérer ses émotions et à comprendre celles des autres. Et donc, à partir de tout ça, on peut faire des grandes aptitudes générales en se disant « Ok, de manière générique, cette personne, elle a a priori ce qu'il faut pour pouvoir s'adapter et travailler dans une entreprise. » Mais à ce stade-là, on n'est toujours pas au niveau des compétences. En revanche, on ne sait pas si elle est capable de faire ci ou ça.
Je pressens que les RH qui nous écoutent ont sorti leur carnet de notes. Il y a beaucoup, beaucoup de conseils. Hein. Merci Jérémy pour cet apport. Et si vous voulez d'ailleurs aller plus loin, creuser un peu plus le sujet des critères de la personnalité, je crois que Jérémy, justement, dans ton dernier ouvrage paru aux éditions d'Uno, tu en parles un peu plus spécifiquement, un peu plus en détail. Donc n'hésitez pas à vous procurer ce dernier ouvrage. Alors, on m'interpelle assez souvent sur le sujet de la guerre des talents. C'est un terme un peu barbare, mais qui, a priori, quand même une réalité aujourd'hui. Et on me fait part de deux réalités antinomiques. Celle de beaucoup de gens qui ne trouvent pas de boulot, d'un côté, alors que d'autre part, les entreprises n'arrivent pas à recruter. Comment est-ce que toi, Jérémy, tu expliques cette inéquation sur le marché du travail ?
En fait, comme on l'a dit, sur le sujet des soft skills, c'est un peu la capacité à s'adapter. Et en vrai, l'être humain, c'est le propre de l'être humain d'arriver à s'adapter. Hein. Depuis la nuit des temps, notre boulot, c'est de survivre au quotidien. Et ensuite, on a mis des constructions sociales dessus avec la sédentarisation, les premières civilisations. Mais globalement, le cerveau, il est toujours fait de la même manière. Il cherche à s'adapter pour survivre. Et dans la société dans laquelle on vit, on a un système éducatif et un système productif qui n'ont jamais demandé ça aux gens. Le système éducatif, il nous a demandé d'apprendre 1515 Marignan on devait stocker des connaissances comme une clé USB. On nous a pas demandé de les mettre en contexte, on nous a pas demandé de challenger le professeur, de discuter, de débattre. On nous a demandé assez peu ces choses-là. Donc on nous a demandé assez peu de nous adapter à l'école. Et dans le monde du travail, on nous a beaucoup, beaucoup demandé d'obéir. Ça fait que notre capacité d'adaptation, elle s'est peut-être un peu diminuée. Elle est là, mais elle est enfouie par tout un tas de croyances, d'habitudes. Et donc, ça fait que toute une partie de la société qui un peu moins développé ces choses-là et puis c'est peut-être un peu moins stimulé sur d'autres aspects, aujourd'hui est nettement moins employable. Parce qu'il faut rappeler un truc, c'est que les soft skills, capacité à réfléchir, à interagir, ça nous permet aussi d'être plus agile dans nos modes de pensée, nos modes d'apprentissage, et donc on apprend aussi plus facilement les hard skills quand on a des soft skills développés. Et il y a toute une partie de la société en fait qui n'a pas emprunté cette voie-là parce que le système ne le favorisait pas. Parfois dans son milieu personnel, quand on n'est pas bien favorisé non plus, c'est aussi compliqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des postes où on a besoin vraiment de ces soft skills parce que avec l'automatisation, les tâches routinières elles sont petit à petit remplacées, donc on a besoin de gens capables de s'adapter sur des tâches non routinières. Mais il y a toute une partie de la population qui n'est pas prête pour ça. Et donc, en fait, d'un côté, on a des recruteurs qui galèrent à recruter, d'un autre côté, des gens qui galèrent à trouver un job, mais c'est parce qu'on a ce qu'on appelle un mismatch, un vrai décrochage entre les compétences demandées et celles qui sont disponibles.
Ouais, effectivement, un mismatch entre les compétences demandées et celles qui sont disponibles, c'est très bien résumé. Et on l'a dit en intro, hein, le monde du travail fait face à pas mal de nouveaux enjeux en ce moment, au niveau du recrutement, on vient de le dire, mais aussi au niveau de l'accompagnement des salariés, ce fameux capital humain dont on parle beaucoup. Aurais-tu une bonne recette à nous partager, un peu la recette bonne maman pour développer les talents d'une entreprise ? Et deuxième question, globalement, qu'est-ce que ces boîtes doivent faire finalement pour s'adapter aujourd'hui, voilà, de quelle manière est-ce que les boîtes doivent réagir finalement ?
Je pense que la question que tu poses, Guillaume, c'est peut-être la plus centrale dans l'évolution des organisations et des ressources humaines. Au XXe siècle, on avait des méthodes et des procédures pour tout. Et globalement, une fois que la procédure était en place, on avait qu'à l'appliquer et paf, ça roulait. Aujourd'hui, on parle de s'adapter. Ben, y a pas de procédure pour s'adapter, hein. S'adapter, ça veut dire s'adapter, ça veut dire être conscient du contexte, dépenser de l'énergie pour comprendre ce qui se passe, bien réfléchir et s'adapter. Et ça veut dire que les collaborateurs doivent le faire, les managers doivent le faire, les RH doivent le faire. Les RH sont là pour poser le cadre, un cadre qui risque de fluctuer de plus en plus. Les managers sont là pour permettre d'appliquer ce cadre et assurer une forme de productivité tout en permettant aux collaborateurs de rester engagés. Et les collaborateurs sont là pour faire tout ça. Et en fait, c'est à tous les niveaux, il y a besoin de s'adapter. Donc moi, j'ai beaucoup de RH qui viennent vers moi en me disant « Est-ce que t'as pas une boîte à outils, une méthode, des choses toutes faites ?» La réalité, c'est qu'il y a des grands conseils sur comment développer les soft skills. Mais il n'y a pas de boîte à outils, c'est pas en enfermant les gens dans une salle de cours pendant 2 heures que vous développerez leurs soft skills. Et là, on va arriver un peu sur le sujet qui blesse à propos des soft skills. Les soft skills, c'est notre capacité à réfléchir et interagir dans un contexte donné. Ça veut dire en fait que on n'apprend pas quelque chose pour le ressortir. Ça veut dire que sur le moment, notre cerveau crée quelque chose de nouveau. Il crée, paf, une idée, il va créer un réflexe, il va créer une action. Et pour arriver à faire ça, le cerveau, il doit être dans certaines dispositions. Il y a 3 dispositions qui sont fondamentales dans notre identité, qui nous permettent de développer des soft skills et qui nous permettent de développer n'importe quel type d'aptitude. Le premier, c'est l'estime de soi. La conviction qu'on a de la valeur. Le deuxième, c'est la confiance en soi. C'est la conviction qu'on est capable d'utiliser cette valeur, ce qui est encore différent. Et le troisième, c'est l'affirmation de soi. c'est notre forme d'assertivité, notre capacité à nous affirmer dans un contexte donné. Et en fait, aujourd'hui, quand on parle de développer les compétences, on trouve peu souvent des professionnels qui vont nous dire « Ah, je vais commencer par développer l'estime de soi » ou des choses comme ça. C'est, on a l'impression qu'il s'agit de, plutôt de faire une formation, de la dérouler et que, ça va, et que les gens vont apprendre. Non, parce que là, il ne s'agit pas de stocker des connaissances, il s'agit de développer des comportements. Et pour développer des comportements qui soient sains et productifs, eh bien, ça passe par le fait de développer l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi.
Quand on va dans une formation, une salle de formation de manière générale, c'est pas vraiment les choses sur lesquelles on va travailler pour apprendre une compétence. Les soft skills, c'est notre capacité à nous adapter, et pour pouvoir développer ces capacités, où d'un coup on réfléchit de la bonne manière, on interagit de la bonne manière, c'est primordial de pouvoir avoir développé avant l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi. Ça, c'est le premier aspect du développement des soft skills. Autrement dit, ça repose sur ce qu'on appelle ces construits identitaires dont on a absolument besoin. Un deuxième prérequis touche à ce qu'on appelle la perception sensorielle. Puisque quand on est dans un contexte et qu'on doit s'adapter, c'est bien qu'on a perçu qu'il fallait s'adapter. La seule manière qu'on a de savoir que notre environnement a changé et qu'il faut s'y adapter, c'est grâce à nos sens, à ce qu'on voit, à ce qu'on touche, à ce qu'on sent, à ce qu'on goûte. Et donc, si on ne travaille pas nos sens, les informations qu'on reçoit sont assez pauvres, et donc on n'a pas de quoi bien s'adapter. Donc pouvoir développer des soft skills, ça commence déjà par recevoir de la bonne information pour pouvoir s'adapter dans le contexte, donc avoir travaillé ses sens. Donc on a deux prérequis. Avant de pouvoir commencer à parler de développer des soft skills comme la créativité, l'esprit critique ou la communication, ces deux prérequis, c'est premièrement avoir travaillé les sujets identitaires comme la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi, et avoir travaillé la perception sensorielle, autrement dit être capable de mieux percevoir son environnement d'un point de vue plus qualitatif, autrement dit on n'entend pas, on écoute et ainsi de suite.
Mais du coup, est-ce que cela signifie qu'il faudrait entrer sur le terrain de l'affect, de la sensibilité pour être performant en entreprise, faire finalement davantage appel au quotient émotionnel qu'au QI ?
Alors merci Guillaume pour la question, parce que ça me permet d'arriver un peu sur le chantier suivant. On a parlé estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi, puis on a parlé perception sensorielle. Et quand on arrive en fait sur le sujet du développement des soft skills et plus généralement de la prise en compte des compétences, bah ça nous permet un peu de revenir sur ce que c'est qu'une compétence, qui est constituée de plusieurs dimensions, plusieurs facettes en quelque sorte. On a une facette qui va être liée à la cognition, donc autrement dit à ce qu'on a appris, ce qu'on est, notre capacité à réfléchir. Donc dedans, on pourrait même séparer, si on veut, les connaissances d'un côté et la capacité à réfléchir de l'autre, mais on va dire la cognition. Ensuite, ce qu'on va appeler la cognition, nos moteurs de motivation, nos préférences, et enfin, l'affect, qui est extrêmement important dans beaucoup de compétences, il y a ce côté affect. Donc l'affect est très très important à prendre en compte, parce que c'est ce qui va nous permettre de créer des vrais liens relationnels. Et donc c'est extrêmement précieux, notamment pour créer de la sécurité psychologique dans une équipe. En revanche, tu as parlé de quotient émotionnel, et ça c'est vrai, c'est un sujet qu'on évoque beaucoup en entreprise, l'intelligence émotionnelle. Je pense que c'est un concept qui est vraiment très intéressant, ce que ça explique derrière, mais le terme lui-même correspond pas mal à une mode qui est née dans les années 90, beaucoup en opposition au QI. Donc à l'époque, c'était Daniel Goleman qui avait fait émerger ce concept de quotient émotionnel, d'intelligence émotionnelle, pour l'opposer un peu à l'intelligence froide, rationnelle du QI. Et ça a un peu émergé comme un sujet presque social. Vous n'avez pas un gros QI, c'est pas grave, vous pouvez avoir un gros QE. Ça a permis de représenter toute une frange de la population qui ne se retrouvait pas nécessairement dans le concept du QI. Et parce que ça a été construit en opposition, je pense que c'est pas un très bon concept. En vrai, les deux, il faut pas les opposer. C'est des composantes dans le sujet des compétences, dans le sujet des soft skills. On a besoin des deux. Donc l'affect est bien sûr très très important, au même titre que la capacité à réfléchir, capacité à interagir et la capacité à se comprendre et à affirmer ses positions.
Alors, on assiste ces derniers temps à l'émergence de pas mal de concepts, l'école Montessori, l'ikigai, l'intrapreneuriat, et ces concepts ont généralement pour vocation de nous aider à nous épanouir dans notre vie professionnelle. Selon toi, Jérémy, est-ce que les entreprises sont prêtes à suivre et à s'adapter à ces nouveaux formats, et quels risques encourent-elles si elles ne le font pas ?
Alors c'est intéressant d'aller observer en fait ce qui se fait à l'extérieur de l'entreprise. Et en effet, on a des initiatives comme l'école Montessori. Bon, l'école Montessori aussi, il faut rappeler que c'est quand même le tout début du XXe siècle, hein, l'émergence. Donc c'est un concept qui a déjà bien vécu, bien évolué, et qui repose en fait sur le développement de l'enfant, mais dans son intégralité, en acceptant toutes les dimensions. On parlait tout à l'heure de cognition, de conation, d'affect, et d'estime de soi, d'affirmation de soi, de confiance en soi. L'école Montessori travaille tous ces aspects-là. Donc c'est intéressant de voir que Maria Montessori avait compris un peu tout ça très très tôt, avant même que ce soit théorisé et que ce soit rendu scientifique. Et j'aimerais revenir sur ce point scientifique, parce qu'en fait, quand on regarde l'école Montessori, on parle d'une méthode pédagogique qui est composée de techniques pédagogiques. Et en fait, dans cette méthode pédagogique, on a des pratiques qui visent à reproduire un certain résultat. C'est-à-dire qu'a priori, si on suit la méthode, tout devrait bien se passer. Le problème, c'est que l'école Montessori, c'est une école. Le travail, c'est pas l'école Montessori, et donc on ne peut pas reproduire la méthode Montessori au travail. Il faudrait à minima l'adapter. Si on en vient après sur les sujets comme l'ikigai et tout ça, là, on est plus sur des grands concepts. Quand on regarde un peu ce que c'est que l'ikigai, on se dit bon, ok, on a ce fameux trigramme, voire quadragramme, tétragramme, où on peut croiser différentes choses, comme ce que je veux dans la vie, ce que je sais faire, ce dont le monde a besoin, etc. Et en fait, ok, une fois qu'on a lu ça, on se dit ok, ça me parle, je comprends du coup ce sur quoi je dois travailler, comment je dois m'équilibrer, mais on ne comprend pas forcément comment le faire. Et donc la méthode n'est pas là dans l'ikigai. Il n'y a pas de science vraiment derrière l'ikigai. C'est plus une espèce de philosophie de vie. Et les entreprises peuvent s'inspirer donc de démarches comme l'école Montessori, comme l'ikigai ou comme d'autres démarches qu'on retrouve à l'extérieur. En revanche, ça ne constitue pas des méthodes à proprement parler pour développer les soft skills ni pour travailler. Et donc à moins que les entreprises se réapproprient de nouvelles méthodes, qu'elles développent des méthodes dont elles sont capables de juger la reproductibilité. Et encore une fois, c'est bien ça la démarche scientifique, c'est mettre une démarche dans laquelle on identifie les critères qui permettent de reproduire l'impact voulu. Tant que les entreprises ne font pas ça, en fait, elles seront pas certaines de pouvoir passer à l'échelle le développement des soft skills. Et en fait, j'ai envie de dire l'entreprise, mais c'est vrai aujourd'hui dans toute la société, personne n'a réussi à passer ça à l'échelle. Donc les démarches auxquelles on est en train d'assister, qui sont un petit peu plus volontaristes, qui veulent aller un peu plus loin que le cadre de l'entreprise, et tu parlais notamment de l'intrapreneuriat, je pense que ça doit suivre cette même logique. C'est-à-dire que oui, c'est bien ça va être bien de processer la manière de faire de l'intrapreneuriat, mais il s'agit de la processer avec toutes les dimensions de l'être humain, c'est-à-dire prendre en compte le volet affectif, prendre en compte le volet des intérêts, des préférences, au-delà des simples process corporate.
Et d'ailleurs, il me semble, Jérémy, que tout ça, tu nous l'expliques dans ton dernier bouquin.
Oui, merci Guillaume d'aborder le sujet. Effectivement, mi-juin 2022, on sort avec Duno un ouvrage sur comment développer les soft skills. Donc j'avais sorti un premier ouvrage sur les soft skills avec Duno en 2017 ou 2018, qui était plus descriptif, qui reprenait le travail de ma thèse de doctorat. Et là, j'ai voulu aller plus loin. Donc il y a presque 4 ans de travaux depuis. On a développé des modèles de soft skills, on s'est intéressé aux méthodes pédagogiques depuis plus de 200 ans, on est même allé voir certaines de la Grèce antique, et on a cherché à comprendre les techniques pédagogiques qui créaient de la valeur dedans. Quelles techniques pédagogiques associer pour créer une méthode pédagogique vertueuse sur le développement des soft skills, notamment en entreprise? Donc on détaille un peu tout ça, un modèle de soft skills qu'on propose, tout un tas de sujets dans ce bouquin donc, qui sort mi-juin.
Alors les auditeurs de l'Instant T sont en général assez connectés et il y a fort à parier que certains aient déjà été séduits par le fameux métavers ou métaverse, hein, peu importe la manière dont on le prononce, ce fameux monde virtuel qui créerait pas mal d'opportunités, notamment dans le domaine de l'apprentissage. Est-ce que selon toi, Jérémy, cette nouvelle technologie permettra de mieux développer les compétences que dans le monde réel ?
Alors je vois le lien avec la question, merci Guillaume de l'aborder d'ailleurs. C'est vrai que je m'intéresse depuis plusieurs mois au sujet du métavers, du Web3, de la blockchain, des choses qui peuvent paraître un peu barbares dans les RH, qui sont des environnements virtuels dans lesquels la blockchain permet de sécuriser les échanges et où des nouvelles technologies comme le web spatial permettent de collecter énormément de données et de pouvoir faire de l'analytique de très très haut niveau. Donc c'est la différence entre le métavers et les environnements comme Second Life d'il y a 20 ans d'ailleurs, c'est qu'il y a toute cette technologie derrière qu'on n'avait pas à l'époque. Mais on demande souvent ces métavers, ou plutôt les environnements de réalité virtuelle de manière générale, est-ce qu'ils permettent de mieux développer les compétences? Ça c'est une vraie question. Et en fait, je sais qu'aujourd'hui, il y a un vrai marché qui se développe dessus. Et donc, moi, je vais dire, oui, ça permet de développer certaines compétences sur des situations connues, travaillées. Un exemple, les pilotes d'avion. Ils travaillent en simulateur et heureusement, ça permet de fortement diminuer les coûts. Pas besoin de crasher les avions à chaque fois qu'on s'entraîne. En revanche, on est dans des environnements qui sont extrêmement contrôlés avec énormément de données sur des cas d'usage qu'on connaît. Les pilotes s'entraînent sur des cas d'usage dans des simulations connues. La difficulté avec les soft skills, c'est que bien souvent, en fait, des cas d'usage, il y en a des milliers, des millions, une infinité quasiment. Et donc, en fait, on pourrait s'entraîner sur quelques-uns, mais on serait préparé pour cela. L'autre aspect, et qui est très très limitant pour moi sur la partie soft skills, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, les soft skills, en fait, notre capacité à réfléchir et interagir, elle est très liée à notre perception, puisqu'elle dépend des informations qu'on reçoit. Dans un environnement de réalité virtuelle, on reçoit des informations un peu dégradées visuellement, puisque c'est des bouts de pixels, on reçoit un peu des informations liées à l'ouïe, mais qui sont un peu artificielles, et globalement, en fait, notre cerveau reçoit assez peu d'informations tangibles pour développer des nouveaux comportements du monde réel. Et donc aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui, je pense que développer les soft skills dans le métavers, ça reste assez compliqué. Je pense que le métavers et les environnements virtuels, en revanche, pourraient être utilisés pour développer des postures réflexives, autrement dit comment réfléchir sur soi-même par rapport à des ateliers de co-développement, par rapport à des mises en situation qui permettent de se confronter à soi-même. Donc c'est un peu du billard à bande, on ne développerait pas les soft skills directement, on irait développer un peu la capacité de la personne à se questionner, et ça la mettrait dans une démarche d'évolution. Je pense que les technologies vont vite évoluer, on a par exemple les technologies haptiques qui arrivent, technologies capables de reproduire le toucher, et au fur et à mesure où on sera capable de mieux utiliser les sens dans les environnements virtuels, je pense qu'on finira par faire des choses assez incroyables en développement des compétences, hard skills et soft skills.
Merci Jérémy, c'est vrai qu'on parle beaucoup hein, du digital, du numérique, de développement de nouveaux outils, du virtuel, du métavers, etc. Mais est-ce que tout ça ne risque pas de creuser les inégalités entre ceux justement qui y ont accès et ceux qui n'y ont tout simplement pas accès aujourd'hui ?
Oui, oui. Je pense que le digital crée un fossé énorme. D'une part, par l'accès à l'équipement, aux technologies et aussi aux logiciels, tout est accéléré, tout est augmenté. Et globalement, l'autre conséquence du digital aujourd'hui, c'est la création de fossés idéologiques. Donc, les personnes qui appartiennent à des communautés sont entretenues dans ces communautés. Et donc, quand ces communautés sont parfois liées au niveau social, il y a beaucoup de choses qui font qu'on n'en sort pas. Et donc, on a un vrai risque aujourd'hui que les inégalités se renforcent, s'accentuent et s'affirment dans le sens où chaque parti, chaque camp, en fait, restera de son côté avec des revendications très très fortes. Ça, c'est le vrai enjeu qu'on voit sur le digital. Je pense que, bien entendu, on va pas faire de politique, l'État a un rôle dans la réduction de cette fracture d'équipement et cette fracture idéologique, hein, les deux. Les organisations ont aussi un rôle. Je pense que les organisations, aujourd'hui, elles recherchent des profils qui sont employables pour créer de la valeur dans l'état actuel des choses. Je pense que les organisations ont aussi un rôle social de pouvoir accompagner les populations qu'elles n'emploieraient pas aujourd'hui pour les rendre employables pour demain.
Ok, c'est très clair. Bon, alors à titre personnel, je suis très équipé en digital, mais voilà, je comprends qu'effectivement, ça puisse faire peur à certains. Et justement, on assiste à un scepticisme de plus en plus fort, hein, vis-à-vis de ces nouvelles technologies. J'ai pas mal d'amis, notamment, qui refusent d'utiliser WhatsApp, qui refusent d'héberger des données sur le cloud. Et tout ça est lié aussi à l'émergence de pas mal de théories du complot, enfin, c'est comme ça qu'on les nomme. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui convaincre les plus réticents de l'utilité de ces nouvelles technologies ?
Alors, pour moi, il y a vraiment deux sujets là-dedans. C'est encore une fois une question de fond et qui peut faire sujet à débat. Je ne confonds pas l'utilité et la criticité. C'est-à-dire que, est-ce que ces technologies sont critiques ? Je ne pense pas. C'est par exemple, à titre personnel, quand on parle du métavers, de tous ces environnements de réalité virtuelle, avec des études très sérieuses de Gartner qui nous disent qu'en 2026, un quart de la population passera au moins une heure par jour dans un métavers. À titre personnel, ça me fait peur, ça me donne envie de vomir, j'ai pas envie de ce monde-là. Après, d'un point de vue pragmatique, ça arrive. Des centaines de milliards d'investissements, plus d'un trillion de revenus qui sont attendus dans les années qui viennent, ça arrive. Donc voilà,
C'est, il faut être aussi pragmatique. Ok, ce sujet arrive et pourquoi il arrive? On est dans une société qui apporte peu de reconnaissance de manière générale aux individus. Les individus, ils ont besoin de reconnaissance. Et dans notre société, on n'a pas réussi à donner cette reconnaissance à suffisamment de monde. Du coup, les gens vont aller chercher cette reconnaissance ailleurs. Est-ce qu'ils l'auront? Je ne sais pas, je ne pense pas, sincèrement. Je ne pense pas, je pense que ça serait une reconnaissance factice et qu'on fera que repousser le problème. En revanche, c'est dans ce sens-là qu'on va. Donc, à défaut de pouvoir changer ça dans l'immédiat, il faut se dire, très bien, il y a des usages qui arrivent et qui, a priori, vont peut-être renforcer certaines inégalités, certaines fractures. Mais s'il y a une chance que ces nouvelles technologies puissent aussi apporter des usages vertueux, alors il faut la choisir. Donc oui, je pense qu'il y a une utilité dans ces nouvelles technologies. Et aujourd'hui, par exemple, je tiens une newsletter sur RH et Métavers pour expliquer comment le Web3, la blockchain et le Métavers vont entrer dans les ressources humaines. Et je ne le fais pas pour dire « faites-le absolument ». Je le dis parce que, en gros, ce que je vois, c'est que ces choses-là vont arriver dans la société et que je pense qu'il y a des usages vertueux à en tirer. Tous ces trucs-là, toute cette technologie, elle ressemblera à ceux qui y mettent le plus d'énergie. Si c'est uniquement une histoire de capitalisme, de mauvais usages, de choses vicieuses, c'est à ça que ça ressemblera. S'il y a des personnes vertueuses qui veulent mettre des usages vertueux dedans, alors on pourra au moins utiliser ça. Donc aujourd'hui, c'est pas parfait. En revanche, je pense que pour convaincre les plus réticents, il faut faire de la pédagogie. Il faut expliquer en fait que c'est pas parce qu'on n'aime pas la pluie qu'elle ne tombe pas. Et que globalement, il faut arriver à tirer le meilleur de ce qu'on fait, de tout ce qui est en train d'arriver, et que là, on peut créer de l'espoir.
Bah merci Jérémy, tu m'as motivé à minima à me doter d'un casque de réalité virtuelle pour tester un peu toutes ces technologies. Ce que je te propose maintenant, c'est le petit mot de la fin. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines années, et s'il y a voilà, des sujets que tu souhaites tout particulièrement aborder pour conclure cet épisode?
D'abord, merci Guillaume, les questions, je les trouve vraiment, vraiment bien ciblées, donc merci. Si on reprend un peu notre sujet des soft skills, c'est, il faut se rappeler qu'on est dans une société qui de plus en plus accélère, qui automatise les tâches qui sont plutôt routinières, celles qu'on fait un peu toujours de la même manière, et donc en fait aujourd'hui notre employabilité, elle va être liée aux autres tâches, celles qu'on ne fait pas de la même manière, donc c'est les fois où on doit s'adapter pour résoudre des problèmes. Les RH doivent se préparer à ça, et donc ça veut dire que recruter par le diplôme aujourd'hui, ça peut être bien dans l'absolu, dans l'immédiat, pour se dire, tiens, pour le boulot là qui va arriver, c'est très bien. Mais les personnes, on ne les garde pas forcément que pour 2-3 ans, on a envie parfois d'investir sur elles. Et là, ça vaut le coup de se poser la question de, est-ce qu'elles seront capables de s'adapter au job d'après, et celui d'après, et celui d'après. Et même au-delà de ça, c'est dans leur job actuel, si demain on a des grosses perturbations, un Covid et que ça doit se faire à la maison, par exemple, est-ce que la personne sera capable de s'adapter à cette situation et d'en ressortir plus forte? Tous ces enjeux-là, quand je dis en sortir plus forte, c'est rappeler que dans la notion de compétence, il y a les trois dimensions qui sont la gestion de l'affect, les préférences, le mode d'identité, et derrière toute la partie capacité à réfléchir. Je pense que les RH doivent vraiment se recentrer sur ces sujets-là, plus que sur des construits qui les rassurent comme le diplôme, et qu'en faisant ça, je pense qu'on ouvrira à plus de diversité aussi. Aujourd'hui, en France, on a une segmentation des diplômes qui est pas mal corrélée à la segmentation sociale des individus. Et donc, je pense qu'en ouvrant les critères de recrutement à des choses qui sont plus liées à la capacité d'adaptation, je suis convaincu que la capacité d'adaptation transcende complètement les frontières sociales, qu'on a des gens brillants à tous les niveaux, et je pense qu'en fait, on pourra recréer une forme de brassage qui peut-être réduira certaines inégalités. Et je laisserai le mot de la fin là-dessus.
Merci beaucoup Jérémy, s'adapter et s'en sortir plus fort, c'est une belle conclusion. Jérémy Lamry, je précise donc que tu es cofondateur du Lab RH, chercheur et entrepreneur dans le milieu de la tech depuis plus d'une dizaine d'années. Un grand merci pour toutes ces réponses, tu as apporté énormément de contenu et je pense que nos auditeurs en seront ravis. Donc merci beaucoup et à très vite.
Merci, à très vite.
Vous venez d'écouter un épisode de l'Instant T, le podcast dédié aux mutations du monde du travail en collaboration avec Hult-EF Corporate Education. Merci. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée et à nous laisser un commentaire. Je vous retrouve très vite avec thé ou café pour un nouvel épisode inspirant.